6 heures.
Devenir le Doctolib des artisans, c'est la vocation de l'application ArtiConnect, un dispositif innovant qui met en relation les artisans et les particuliers de la région Hauts-de-France. Raphaël Goncalves, fondateur de l'application, nous en dit plus.
Donc je suis Raphaël Goncalves, artisan à Crépy-en-Valois depuis plus de 10 ans.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est ArtiConnect, l'application que vous avez créée ?
C'est une solution digitale dédiée aux artisans du bâtiment, pour simplifier les échanges avec leurs clients, la prise de rendez-vous et passer moins de temps au téléphone.
Il est notamment écrit dans le communiqué de presse que vous êtes un peu le Doctolib de l'artisanat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Le process est le même, c'est-à-dire que la finalité, c'est de prendre rendez-vous directement en ligne. Donc, c'est un gain de temps pour l'artisan, le fait de moins passer de temps au téléphone. Un nouveau service au client apporté, parce que il peut prendre rendez-vous à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit.
Comment est-ce qu'ArtiConnect elle contribue à dynamiser l'économie locale dans les Hauts-de-France ?
Alors, c'est une nouveauté pour le coup. Donc dynamiser, je dirais que ça va surtout, c'est surtout une nouveauté plutôt qu'une dynamisation.
Même si maintenant c'est une nouveauté, dans l'avenir vous voyez ça comment au niveau de la redynamisation ?
Globalement, on ne change pas les méthodes de travail des artisans. On améliore d'une certaine façon leur journée, leur organisation. On optimise leur organisation d'ailleurs. Mais pour la partie dynamisation, c'est sûr que par nature, on leur offre un nouveau support digital. Aujourd'hui, l'artisanat n'étant pas digitalisé, beaucoup ont un site internet qui ne servent que de vitrine. Donc, très onéreux pour juste une vitrine. Donc, effectivement, ça permettra aux artisans d'être digitalisés, d'être visibles sur les réseaux et d'être mieux placés sur le web également.
Alors, est-ce que vous avez constaté une augmentation de l'activité pour les artisans inscrits sur la plateforme ?
Alors, un petit peu. Pour le moment, un petit peu. Étant malgré le fondateur de l'application, je ne vois pas les flux parce que tout est crypté et bien protégé pour leurs données, pour tout ce qui est RGPD. Mais on a eu de très bons retours par rapport aux artisans qui sont déjà sur la plateforme.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont ces retours-là ? Qu'est-ce qui ressort un petit peu ?
Ce qui ressort, c'est la simplicité de prise de rendez-vous. Donc, l'avantage de pouvoir organiser déjà pour l'année prochaine intelligemment les rendez-vous. Du coup, c'est ce qui en ressort beaucoup.
Et donc, pour poursuivre, quel impact l'application elle pourrait avoir sur l'emploi artisanal dans une région souvent marquée par un taux de chômage élevé ?
Alors, on ne va pas particulièrement empêcher le chômage ou le réduire. On va simplifier la vie des artisans, simplifier la vie des clients, des utilisateurs, qui, eux, ont un nouvel outil pour rechercher un artisan, donc en local, pour le coup, parce que l'application fonctionne en local en premier. C'est-à-dire qu'elle va proposer par nature, grâce à la géolocalisation, les artisans les plus proches de chez soi.
Et donc pour parler un petit peu de partenariat, est-ce qu'il y a des partenariats qui sont prévus avec les chambres des métiers de l'artisanat dans les Hauts-de-France ?
Alors je suis en discussion avec la chambre des métiers, donc voilà, pour l'instant rien ne fait, mais c'est en cours on va dire.
En quoi ArtiConnect, elle représente une avancée technologique pour un secteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, encore très peu digitalisé dans la région ?
Comme je le disais, jusqu'à aujourd'hui, les artisans, pour ceux qui ont un site internet, n'est qu'un site internet vitrine, donc présenter ce que l'entreprise fait, mettre des photos, mais c'est généralement pas suffisant, et puis c'est beaucoup trop vague. Trop peu d'ailleurs ont de site internet, pour plusieurs raisons, à cause du tarif principalement, mais aussi de la complexité que ça représente de tenir un site internet convenable, plus généralement. Pour le coup, moi j'en ai eu, et puis on s'occupe du site internet une fois lors de sa création, puis après on ne l'alimente plus. Là l'idée c'est que c'est sous forme d'application aujourd'hui, que ce soit simple à utiliser, que ce soit simple à modifier une photo, à montrer nos réalisations, et de proposer des rendez-vous qui sont également simples et récurrents.
L'application ArtiConnect est destinée à tous les profils d'artisans, Raphaël nous explique.
De tous les artisans du bâtiment, oui.
Et comment elle s'adapte au profil d'artisan parfois peu à l'aise avec le numérique ?
Alors, je l'ai pensé très simple, cette application, pour qu'elle soit justement compatible avec tout type de profil. Donc c'est très intuitif, c'est très simple, et c'est le but recherché pour nous les artisans.
Vous avez fait des tests utilisateurs avant de lancer l'application, comment ça s'est passé ?
J'ai créé ce que j'appelle la version 1, que j'ai utilisée moi-même avec mes clients pour avoir des retours particuliers, mais je suis le seul artisan à l'avoir utilisé au départ sur la V1. Mais l'optimisation de mon temps et de mes déplacements était telle qu'il n'y avait pas photo. Au lieu d'envoyer des centaines de courriers ou de passer des centaines de coups de téléphone pour organiser les entretiens, ça a tout de suite démontré le bienfait.
Et comment est-ce que vous garantissez la mise en relation avec des artisans réellement proches géographiquement des utilisateurs ?
Grâce aux technologies d'aujourd'hui, la géolocalisation fait qu'effectivement, on se base au siège social de l'entreprise. Et puis les artisans, eux, indiquent une zone de chalandise. De cette manière, ils sont visibles sur cette zone. Les clients, grâce à cette géolocalisation, ont les artisans autour d'eux.
Et toujours pour parler de garantie, quelle garantie apportez-vous aux usagers pour s'assurer de la qualité et du sérieux des artisans référencés ?
Alors, on compte beaucoup sur les avis clients, comme beaucoup le font aujourd'hui. Contrairement à d'autres, par contre, les avis clients ne peuvent être déposés que suite à une prestation qui a transité par ArtiConnect. Donc, ce qui limite tout de même les mauvais avis ou les avis mal intentionnés, disons.
Pour parler un petit peu de l'accueil que vous recevez, quel accueil recevez-vous de la part des collectivités locales et des acteurs institutionnels de la région, type la Chambre des métiers, etc.
Alors pour le coup, les premiers à m'avoir écouté et suivi, c'est la communauté de communes du Pays du Valois, à Crépy, qui m'a tout de suite dirigé vers Oise Initiative Est, à Compiègne, qui m'a épaulé depuis un moment, sur toute la préparation. Et puis maintenant, je suis accompagné également par Itera, à Compiègne. Donc c'est vrai qu'il y a tout un organisme. Alors pour le coup, c'est une grande découverte pour moi, parce que artisan depuis tant d'années et étant tout seul face à tous mes problèmes, c'est vrai qu'aujourd'hui on est épaulé par toutes ces structures qui nous aident à répondre à toutes les questions qu'on peut se poser et affronter ce nouveau monde.
Pour parler un petit peu de l'avenir, quelle est votre vision pour ArtiConnect à l'échelle régionale d'ici un à deux ans?
L'idée, ce serait d'être le leader de la mise en relation entre artisans et particuliers.
Et pensez-vous que les Hauts-de-France peuvent devenir un territoire pilote, un territoire un peu leader, pour l'artisanat digitalisé en France ?
Ah oui, bien sûr, c'est le but. Tout part d'ici.
Donc pour parler un petit peu de vous maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette application ?
Le hasard. Je cherchais tout simplement une manière de mieux m'organiser. J'avais une petite structure à gérer, une belle structure déjà. C'est énormément de boulot, on ne se rend pas compte à quel point, entre la réception des appels, les rendez-vous pris, les devis à faire, la commande du matériel, la gestion des chantiers, etc. Et voilà, c'est dans cette réflexion que je suis arrivé à me dire, pour tout ce qui était simple et récurrent, si je ne pouvais pas le proposer en ligne, ça me permettrait de moins recevoir de coups de téléphone, donc de travailler plus. Pour ceux qui me connaissaient sur le terrain, j'avais toujours les oreillettes pour travailler en même temps que répondre au téléphone, mais voilà, on arrive le soir, on a une tête grosse comme une pastèque, donc voilà, l'idée c'était de soulager et d'améliorer ça. Et en plus de ça, avec plusieurs mois de réflexion, ce qui a permis d'optimiser les déplacements, donc pour nous, artisans.
Et comment on crée une application ? Vous avez fait appel à des prestataires, dites-nous.
C'est pas simple, déjà on sait pas vers qui se tourner, et puis effectivement on fait appel à des prestataires, donc des développeurs d'applications avec lesquels on travaille beaucoup, et sur la conception et sur le visuel, donc effectivement, et puis ça s'arrête pas là, hein. On parle pas des protections qu'il faut apporter, des RGPD, les avocats qui sont là pour ça, etc. C'est un beau petit combat de tous les jours.
ArtiConnect est disponible sur Play Store pour les téléphones Android et sur l'App Store pour les iPhones. ArtiConnect, la digitalisation de l'artisanat, un reportage de Juliette Carlier pour Radiographie.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
En direct de l'Université des sciences et technologies de Lille, vous écoutez Radio Campus Lille sur le 106,6.
La place du marché, où l'on peut aisément trouver pour un très bon marché les hommes et les femmes. Le boss est venu m'allouer, il m'a dit de construire un mur. La nuit je dors, le jour je travaille dur. Et un jour le mur est terminé, le loueur m'a ramené. Le boss m'a pris en location, sans doute que c'était ma vocation. À ce qui paraît j'étais une occasion rare pour la saison. Au regard des conditions de ma situation, j'ai émis des interrogations. Il m'a dit, y en a plein sur le marché qui rêve de ta position et qui ne pose pas de questions.
Où tu es allé?
Y'a des jeunes en galère,
des papiers sans pas cher,
des hommes et des femmes
à louer.
Le père et la mère,
le fils et tous ses frères,
tout le monde est
à louer.
Chinois, des Sri Lankais,
yeah,
des Sénégalais,
yeah.
Avant ou à
louer,
yeah. Selon ta préférence,
est-ce que tu mesures ta chance?
Boss pour le boss, si c'est le boss, c'est que tu bosses. Pense quand tu bosses, c'est pour lui. Boss et attends ta paye. Boss dort sur la paille. Boss de ton réveil jusqu'à ce que le boss dise qu'il faut que tu t'en ailles. Boss le jour dort la
boss
nuit.
Boss paye tes crédits.
Boss le boss paye sa Ferrari.
Boss donne ton dos. Boss donne tes doigts. Boss donne tes poumons. Boss donne ta vie.
Boss et donne pas ton avis.
Boss, n'oublie pas que tu ne seras jamais le big boss de ta vie.
Big boss de ta vie.
Boss pour la France.
Boss pour la croissance.
Boss jusqu'à ce que ta boss te porte chance.
Boss c'est ton boss. Faudra bientôt l'appeler Boana. Si t'as trop roulé ta bosse ou si t'es de la France d'en bas,
n'oublie pas que tu es allé.
Y'a des jeunes en galère,
des bacs plus sains pas cher,
des hommes et des femmes
à louer.
Le père et la mère,
le fils et tous ses frères,
tout le monde est
à louer.
Chinois, des Sri Lankais,
yeah,
des Sénégalais,
yeah.
Avant tout à
louer.
Selon ta préférence,
est-ce
que tu mesures ta chance?
Y'a des jeunes en chien,
y'a des mères de famille, y'a des vieux fatigués,
pas cher, pas cher.
Y'a des immigrés, y'a des réfugiés, y'a des clandestins,
pas cher, pas cher.
Y'a des Marocains, y'a des Sénégalais, y'a des Sri Lankais,
pas cher, pas cher.
Y'a des pays entiers, y'a des hommes et des femmes, y'a même des enfants,
pas cher, pas cher.
Y'a des professeurs, y'a des musiciens, y'a des étudiants,
pas cher, pas cher.
Y'a des bras, des épaules, des petites mains, y'a même des culs,
n'oublie
pas que tu es allé. Y'a des jeunes en galère,
des papiers sans
pas cher,
des hommes et des femmes
à louer. Le père et la mère,
le fils et tous ses frères,
tout le monde est
allé.
Chinois, des Sri Lankais,
y'a
des Sénégalais,
avant
ou à louer. Selon ta préférence,
est-ce
que tu mesures ta chance?
Avec un réseau de plus de 500 bénévoles, l'association T'as un ami réalise des binômes d'amitié entre une personne isolée, quel que soit son âge, son handicap, son origine, et un ami bénévole. Parce que tout le monde a besoin d'un ami, rencontre avec Jean-Jacques Derosio, président de l'association T'as un ami, Julien et Marine, tous deux étudiants et bénévoles de cette association.
L'association T'as un ami est une association qui a pour objectif d'accompagner femmes, hommes et enfants isolés. Notre premier rôle est de proposer un ami bénévole auprès d'une personne isolée qui ira lui rendre visite une voire plusieurs fois par semaine pour parler, discuter, dialoguer. En plus de cette activité essentielle, avec un réseau de 500 bénévoles essentiellement situés sur le Nord-Pas-de-Calais, nous réalisons des activités culturelles pour 4000 personnes par an. On sait que par la culture, les personnes isolées s'ouvrent au monde d'aujourd'hui. Et notre troisième activité, si vous avez un rêve, si une personne isolée a un rêve, on peut financer le rêve. Rêve d'une vie ordinaire, bien sûr, si c'est pour aller au Canada, j'aimerais bien y aller aussi, mais ce sont des rêves d'une vie ordinaire et c'est important de pouvoir les aider.
Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand existe cette association ?
Bien sûr, l'association a été créée il y a exactement 11 ans. Nous avons fêté nos 10 ans il y a un an. Cette association s'est développée assez rapidement, tant l'isolement en France est forte.
Et pourquoi est-ce que vous avez créé cette association ?
Ah, c'est une bonne question. Alors, j'accompagnais quand j'étais encore dans le monde professionnel une personne âgée qui s'appelait Eliane Boët, qui n'est plus de ce monde. Et lorsqu'elle a quitté il y a 11 ans notre monde, on a pensé beaucoup à elle, j'ai pensé beaucoup à elle. Elle disait à tout le monde, j'ai un ami, j'ai un ami. On s'est dit qu'on va essayer de créer une nouvelle association qui porterait le nom Tu as un ami, parce que je pense que l'amitié peut sauver le monde d'aujourd'hui. Voilà l'origine de cette association. On pensait être 10-15 bénévoles, mais on s'est développé très très rapidement.
Et vous intervenez sur quel territoire ?
Alors on est présent sur Lille et autour de Lille sur à peu près 25 km, donc quasiment toutes les villes. On est présent sur Saint-Amand-les-Eaux et 10 km autour de Saint-Amand-les-Eaux, Armentières. On est aussi très présent dans les coraux miniers du Pas-de-Calais, là où il y a beaucoup, beaucoup d'isolement. Et on est sur quelques villes aussi périphériques. Mais on n'est que sur le Nord-Pas-de-Calais.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions que vous avez déjà menées ?
Je vais vous donner une action d'abord, en dehors de l'accompagnement qui reste le cœur de notre activité. On réalise par exemple des activités culturelles. On a créé deux tiers-lieux, un à Lens et un à Lille, où on réunit des personnes isolées, hommes, femmes et enfants, et on fait des conférences sur tous les sujets. Ça peut être la conférence sur un pays, ça peut être aussi une activité autour du jardinage, sur l'écologie. Donc on fait comme ça 150 activités par an pour pouvoir effectivement réunir toutes les générations, de toute origine, j'insiste, c'est-à-dire que nous ne regardons pas l'origine. Ça peut être des personnes qui sont sans papier, ça peut être des gens très isolés, ça peut être des familles monoparentales et qui viennent effectivement dans le monde mélangé que l'on souhaite mettre en œuvre, faire une activité tous ensemble. Mais toujours culturelle, c'est-à-dire ça apporte quelque chose au niveau des participants.
Ça doit demander une sacrée organisation.
Vous avez raison, on a beaucoup de bénévoles, on a deux aujourd'hui ici, qui donnent beaucoup de leur temps pour organiser cela. Mais on fait toutes ces activités avec les bénévoles et on a aujourd'hui très peu de salariés puisqu'on est à l'équivalent, un équivalent temps plein en salariés. Mais on essaye de jouer beaucoup sur le bénévole. C'est d'autant plus important, c'est qu'on voit aujourd'hui que les subventions baissent dans le monde associatif et on n'a pas envie de trop vite développer le monde de l'emploi chez nous, même si ce serait très intéressant.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez rencontré cette association ?
Alors moi je sais que j'ai une amie qui avait été bénévole pour cette association avant, elle m'en avait parlé, elle a bien aimé les projets et c'est une association qui permet de trouver du sens à ce qu'on fait finalement, parce que l'isolement social ça touche toutes les générations, des personnes âgées aux plus jeunes, et c'est pour ça que je voulais essayer de m'investir, donner de mon temps pour trouver du sens tout simplement.
Moi c'est pareil, on m'en avait parlé à mon université et donc j'ai fait la rencontre de Jean-Jacques juste après, c'est là que j'ai décidé de m'engager justement.
Est-ce que vous avez déjà donné de votre temps dans cette association ?
Oui, bon, ça fait plusieurs fois qu'on fait des activités, on fait par exemple de l'aide aux devoirs où on accompagne des enfants, le jardinage aussi qu'on a fait pour les 48 heures de l'agriculture.
Le mercredi après-midi, la plupart du temps, il y a des activités et donc on est présent sur ces activités justement où on fait surtout de l'animation et de l'accompagnement des personnes, que ce soit des personnes âgées ou des plus jeunes.
Est-ce que vous pensez que ça va être utile dans le cadre de vos formations ?
D'un point de vue purement rationnel, j'imagine que oui, c'est toujours bon sur un CV, par exemple, de dire qu'on a été bénévole, ça montre de belles valeurs. On travaille pas uniquement pour l'argent, mais aussi pour donner du sens à ce qu'on fait, notre parcours.
Je pense que c'est une expérience importante et enrichissante. Je pense que ça nous ouvre un peu aussi les yeux sur le monde actuel et sur la dureté. Enfin, les personnes âgées qui sont isolées, ou même pas seulement les personnes âgées, mais les personnes isolées, on n'en parle pas assez aujourd'hui et pourtant c'est un vrai sujet. Donc je pense que oui, c'est intéressant et même au niveau de ma formation, ça peut m'aider dans le futur.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez ?
Alors aujourd'hui, on travaille avec les centres pour personnes âgées, EHPAD, résidence autonomie, on travaille avec beaucoup de personnes à domicile, on travaille avec des CCAS, des centres sociaux, beaucoup de centres sociaux aussi. Donc on a des structures, mais on est aussi directement sur le domicile. Et pour les enfants, on travaille beaucoup dans les quartiers prioritaires de la ville. On a des partenariats pour faire que l'enfant, au bout d'un an, et demi, ne soit plus isolé et ait des notes tout à fait correctes à l'école. Alors pour une information, je vais parler d'Isra, qu'on continue à accompagner parce que c'est un enfant sans papier. Il y a 2 ans et demi, elle était chez nous, on l'a accompagnée 1 année. Elle ne savait ni lire, ni écrire, ni parler le français. Et aujourd'hui, elle est première de son école. Voilà le type de succès que nous aimons bien. Elle n'a plus besoin de nous. Donc, elle continue son développement toute seule. Donc, on a des partenaires un peu partout, là où il y a des besoins et là où l'isolement se trouve, bien sûr.
Quand vous dites que vous accompagnez les personnes, ça consiste en quoi ?
Alors, pour les accompagnements des majeurs, ça peut être des étudiants, on a aussi des étudiants. Donc, un bénévole rencontre la personne isolée 1 à 2 fois par semaine pendant 1h, 1h30. L'idée, c'est de parler, discuter. Alors, c'est pas faire la vaisselle et les courses. Parler, discuter, dialoguer, passer un bon moment, se raconter la vie. Et c'est surtout que ces personnes puissent avoir un confident, un ami, auprès duquel ils puissent dévoiler un certain nombre de choses qui restent confidentielles, mais c'est quelque chose d'important. Il y a tellement peu d'amitié chez les personnes isolées que ça pose un problème aujourd'hui.
Avec Jean-Jacques Derosio, président de l'association T'as un ami, Julien et Marine, tous deux étudiants et bénévoles de cette association, qui nous présentent leur nouvelle action.
Alors, cette action, on s'est réunis fin d'année dernière. on a fait un constat qui est quand même assez triste. D'abord le premier élément, c'était la situation des personnes âgées. On a vu que dans les structures médicalisées et non médicalisées, voire dans les villages où il y a des personnes âgées, on avait tendance à moins bien accompagner sur le plan matériel les personnes âgées. Alors, quand je dis matériel, c'est bien manger, avoir de bons soins, etc. Là, nous, on ne gère pas, mais on voit une dégradation quand même très forte. Je prends un exemple qui peut parler à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est dans les EHPAD, il peut y avoir entre 40 et 50% d'absentéisme. Vous imaginez comment les personnes âgées vivent ce phénomène. Mais nous, on s'intéresse surtout à l'aspect psychologique. On a vu des personnes âgées qui ne voyaient plus personne, et de plus en plus, si ce n'est un médecin, voire un aide-soignant, une aide-soignante. Et ça nous a attristés. On s'est dit, on ne peut pas laisser faire. Parce que je pense que notre société sera jugée demain à la façon dont elle s'occupe des personnes âgées. On voit qu'il y a une détérioration forte. Et on a lancé ce projet que je trouve magnifique. On va faire des sketchs.
D'où est venu ce projet? Alors, vous nous avez donné un peu les motivations, le pourquoi. Choisir le rire, pourquoi?
On s'est dit qu'on voit partout, à la télé, au niveau des radios, tout le monde dit que les personnes âgées sont mal loties, entre guillemets, c'est-à-dire elles n'ont pas la chance d'avoir une vie comme vous et moi. On l'entend partout. Et ça ne change pas. Au contraire, ça s'aggrave. Et puis on s'était dit, et si on faisait des sketchs en mélangeant comique et situation réelle de personnes âgées, est-ce que les gens, donc les familles des personnes âgées, les petits-enfants, les proches, et vous et moi, on ne prendrait pas plus conscience que un jour on sera aussi une personne âgée et qu'on a vraiment envie de parler, discuter et d'avoir un bien-être psychologique avec ces personnes. Donc on a vraiment eu cette prise de conscience. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, le rire peut changer le monde. Je crois que le rire peut changer le monde, mais c'est qu'un avis.
Oui, la dérision, c'est très fort et c'est très puissant. Concrètement, comment ça va se passer?
Alors, concrètement, on a nos petits jeunes qui sont ici et d'autres. Hein. On va sortir 5 films, 5 sketchs. Les sketchs ont pour objectif de traiter des situations de personnes âgées pour montrer combien il est difficile de vivre dans notre société pour une personne âgée isolée. Je vais prendre un exemple très simple. C'est le premier qui est sorti, donc vous pourrez le retrouver tout à l'heure. On vous donnera effectivement les liens pour pouvoir y aller. Donc, c'est Jeanine Ronde qui est amoureuse de James Bond. Et pourquoi Jeanine Ronde est amoureuse de James Bond? C'est parce qu'elle est isolée, elle vit dans son monde, elle n'a plus personne à qui parler, partager. Donc, elle s'est inventée une vie. Et ça, c'est une vraie souffrance, s'inventer une vie. Vous savez, quand on s'invente une vie, ça veut dire qu'on ne compte plus sur la société actuelle. Et nous avons côtoyé énormément de personnes qui se sont inventées une vie et qui, derrière, ne veulent plus la quitter parfois. On va rencontrer ces gens. Vous voulez voir une personne, un ami bénévole ou un bénévole? Ben, il y a des personnes âgées qui nous disent « Mais non, maintenant je suis dans mon monde. Laissez-moi mourir dans mon monde. » C'est dur comme image. Donc nous on dit, prenons conscience, vous les familles, vous les personnes, toutes les personnes en France, qu'il y a une personne isolée, âgée, proche de chez vous, qui serait très heureuse que vous partagiez un café, que vous puissiez discuter une heure par semaine et faire que la vie de cette personne soit meilleure.
Travailler sur la déconstruction des préjugés, ça prend du temps.
Bien sûr. Alors on ne l'a pas fait au hasard. D'abord, on prépare, on a les 5 sketchs, on connaît déjà à peu près le contenu. Mais après, on va voir les personnes, des personnes âgées. On leur dit, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est le reflet, même si ce sont des sketchs avec des parties comiques, est-ce que c'est bien le reflet de ce que vous vivez? Et souvent, on nous dit, bah, c'est exactement ça. Voilà. Et on ne l'a pas fait dans notre petit coin, parce que même si on accompagne beaucoup de personnes âgées, de personnes de générations différentes, mais on parle des personnes âgées aujourd'hui, on en rencontre beaucoup. Mais je peux vous dire que tout ce qu'on a écrit dans ces sketchs, et il y aura un sketch qui sera diffusé tous les mois, tout ce qu'on voit au niveau de ces sketchs, c'est la réalité. C'est une réalité qui nous fait rire. J'espère que le premier sketch vous fera rire. Mais c'est une réalité qui est triste pour les personnes âgées.
Comment est-ce que vous allez les diffuser?
Ce qu'on a pas mal fait ces derniers temps, effectivement, c'est de contacter des médias, comme des radios, des journaux, en essayant d'ouvrir le plus de portes possible. On va essayer de répandre le mot pour que tout le monde puisse, s'il le souhaite, regarder ces petits films et prendre conscience de cet isolement social.
Et ce qui est également important aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc tous nos sketchs, ils sont diffusés sur nos plateformes, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter.
Sur le site internet Tanami, vous tapez www.ta1ami.fr, rubrique actualité, et vous verrez cette Jeannine Ronde. On en est amoureux, tellement elle est gentille, mais on voit qu'il y a une vraie problématique d'isolement, mais c'est vraiment pris à la dérision. Et je sais que ce sketch est lancé depuis peu, depuis une semaine, sur tous les réseaux, et que cette prise de conscience permettra à vous toutes et tous de venir peut-être un jour bénévole, mais peut-être tout simplement aller frapper au sein d'un EHPAD voisin à côté de chez vous. Bon, j'ai parlé à une personne âgée qui est isolée chez vous une heure par semaine, et vous verrez qu'ils vous accueilleront bien et que ça changera vraisemblablement la face du monde dans quelques années, voire peut-être quelques dizaines d'années. C'est long à corriger, bien sûr.
Nous étions avec les responsables de l'association T'as un ami, reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. Kill a man, take a ride in my car. Descend into madness. All I need is a second glance. Long enough to shoot the devil. Kill a man, I'll have your tempo.
Les tutus roses, les roses roses, les choses menues, les choses petites et sans défense, qui sentent le lait, qui sentent l'enfance, qui sont perdues, sans torche-cul, elle est cucu. Elle est rouquine, elle est coquine, elle est coquette. Elle se frisote, se défrisote, se refrisette. Met des cerises à ses oreilles, peint des myrtilles à ses orteils et des yeux de biche à ses peluches. Elle est nunuche. Mais comme les hommes, ça additionne, ça affectionne les cruches à couette à boule de gomme. Elle est con-con, contente d'être coconne. Elle reste sage comme une image de bégonia. de nains de jardin, de chiens de Pékin, de Pékinois. Elle joue à la maîtresse d'école, à louilletu, à pigeon vol, à crapassuche, à sèche, à nœud. Bon, facile à dire, crapassuche. Elle est neuneux. Elle rêve de faire un jour bergère et puis princesse. De vivre un conte rempli de contes et de comtesses. De belles au bois dormant qui dorment, qui se transforment en licornes. Et les licornes en citrouilles. Vous la connaissez aussi. Elle est coucouille. Mais comme les hommes, ça papillonne, ça collectionne les cruches à couettes à boules de gomme. Elle est contente d'être coconne. Là, des bibelots, des petits grelots en porcelaine, des petits chaussons, des petits poissons, des petites sirènes, en kit, en toc, en bakélite, en verre, en plastoc, en plastique, une vierge remplie d'eau bénite. Elle est limite. Elle aime les coin-coins, les gros chiens-chiens et leurs babales, les lapinets, les poussinets, les gros chevals, les bêtes à poil avec une queue au ventre tiède et broussailleux que l'on chatouille et qui frétille. Elle est gentille. Mais comme les hommes, ça baritone, ça fanfaronne, ça boit le rhum à la bonbonne. Elle est contente d'être coconne. D'aimer les chats, le Nutella, d'être cucu.
Depuis 33 ans, 200 lycéens des Hauts-de-France participent à l'opération Histoire et mémoire de la Shoah au sein de leur établissement scolaire. En effectuant des recherches sur la déportation vécue dans la région, avec, en point d'orgue, une visite de deux jours au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne. Le fruit de leur travail a été exposé récemment à l'hôtel de région à Lille, où le jour de l'inauguration, ils ont rencontré et assisté à une conférence de Lili Léniel Rosenberg, survivante des camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. Comme le rappelle Maddy Dorchy, conseillère régionale en charge de la mémoire, ces jeunes lycéens deviennent à leur tour des passeurs de mémoire.
Alors effectivement, là aujourd'hui, on va faire une restitution. Enfin, les jeunes, les lycéens vont faire une grande restitution auprès de leurs collègues. En fait, ils ont répondu par le biais de leur lycée à un appel à projet qui est lancé par la région en lien avec les rectorats, les académies de Lille et d'Amiens et le mémorial de la Shoah. Donc c'est un appel à projet pour travailler justement sur l'antisémitisme et ses notions de discrimination. Donc ils ont travaillé en première sur différentes questions. Bon, on voit, c'est les parcours d'habitants de chez eux, le parcours de familles qui ont été déportées. Et ensuite, en terminale, ils font ce déplacement à Auschwitz-Birkenau pour finaliser ce travail de mémoire qu'ils effectuent. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, bon, ils ont pu bénéficier de cette expérience et ils deviennent des ambassadeurs de mémoire et il est important qu'ils puissent aussi transmettre cette mémoire et tout ce qu'ils ont pu voir, l'horreur des camps justement et comment la haine de l'autre, ce que la haine de l'autre peut provoquer. Donc il est important qu'ils puissent le restituer auprès d'autres lycéens.
Ces passeurs de mémoire transmettent-ils le message ?
J'en suis intimement convaincue, donc c'est un dispositif qui existe depuis 1992. En région Hauts-de-France, c'est un dispositif qui existe chaque année. On a voulu vraiment donner de l'importance, puisqu'avant c'était tous les deux ans. Là, on décide de le faire chaque année, parce qu'effectivement, il y a un message important. Vous savez, la première fois que j'ai fait le déplacement avec les jeunes, parce que je le fais à chaque fois, pour moi c'est très important de voir un peu comment ils s'imprègnent s'imprègne de tout cela. Et il y en a un qui est venu me dire en disant, mais madame, on est légitime maintenant pour réagir contre toutes les formes de discrimination. Ils sont profondément marqués par ce qu'ils découvrent. Enfin, ils comprennent ce que la haine de l'autre peut provoquer. Et ça, je crois que c'est un message qu'ils ont, qu'ils reçoivent et qu'ils transmettent régulièrement. Oui, effectivement.
Les Hauts-de-France ont été occupés par l'Allemagne nazie. Est-ce pour cela que les élèves sont un peu plus impliqués ?
Je pense que oui, nous sommes effectivement, comme vous le dites à juste titre, une région qui est très marquée par la mémoire et où il y a une forme de résilience très importante dans notre région. Et je crois qu'on peut vraiment être fiers des jeunes des Hauts-de-France parce qu'ils sont là, ils sont aussi présents dans toutes les commémorations, ça je tiens à le souligner. Ils sont là pour vraiment transmettre cette mémoire. C'est vraiment des ambassadeurs de la mémoire importants.
Y a-t-il encore une visibilité dans la région sur les événements qui se sont produits il y a maintenant plus de 80 ans ?
Je pense que si, on a quand même de la visibilité de dessus, hein, puisque c'est des commémorations qui se font quand même chaque année, hein, auxquelles je participe et auxquelles les jeunes participent aussi. Bon, effectivement, on a des événements régionaux, mais ce qui est important, c'est vraiment le phénomène de masse et comment cette organisation dans ces camps de concentration, c'est vraiment une véritable organisation qui a amené à vouloir supprimer de la carte les Juifs, mais aussi toutes les personnes différentes. Et c'est vraiment une extermination, un assassinat en masse qui a été provoqué. Et ça, c'est général. Donc, il n'y a pas plus en région Hauts-de-France. Je crois qu'ils comprennent l'importance du phénomène.
Comment les professeurs ont-ils incité les lycéens à s'impliquer dans les recherches historiques sur la déportation et la Shoah ? Professeur d'histoire-géographie au lycée Saint-Odile de Lambersart, Emmanuel Baquet explique.
En fait, j'ai un club d'histoire qui se tient tous les mardis de 17h à 18h. Et mes élèves, je les ai impliqués à partir de l'année dernière où je les ai fait travailler sur des archives pour reconstituer le parcours d'une famille. Et à partir de ces archives, ils ont écrit des textes. Ils ont reçu un enfant caché, qui a été caché entre 1942 et 1944, Georges Comar. Et avec l'interview, ils ont créé des podcasts qu'ils ont enregistrés.
Vous avez combien d'élèves qui ont participé à cette opération ?
Au total, j'ai 15 élèves qui ont participé à l'opération et 6 élèves qui sont partis avec moi à Auschwitz en novembre, 6 élèves de terminale.
Est-ce difficile d'impliquer des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, 18 ans dans une telle recherche ?
Pour ma part, ce n'était pas difficile parce qu'ils étaient motivés dès le départ, déjà. Et le fait d'avoir rencontré un enfant caché fait que l'histoire leur apparaissait beaucoup plus proche. Et lire les archives aussi, je pense que ça permet de rapprocher des événements anciens et de s'y intéresser.
Et pour vous, c'était aussi une partie de l'histoire qui vous intéresse ?
Oui, tout à fait. Moi, je suis trésorière d'une association Lille FIV 1942 qui travaille sur cette question.
Et qu'est-ce qui a donc motivé les élèves à participer pleinement à l'opération Histoire et mémoire de la Shoah ? Étudiante au lycée du pays de Condé, à Condé-sur-Lescaut, Jade et nous éclaire.
Parce qu'on voulait rendre hommage aux personnes du Valenciennois et aux personnes juives, justement, qui ont été assassinées durant cette période.
Alors vous êtes allé en Pologne, au camp de Auschwitz-Birkenau, qu'est-ce qui vous a marqué là-bas ?
C'est vraiment le camp, l'entrée. Dès qu'on arrive, on sent un peu un mal-être et on sent la souffrance justement de ces personnes qui ont été là-bas.
Avant d'y aller, vous vous intéressez à cette partie de l'histoire ?
Oui, c'est une partie qui m'intéressait beaucoup au niveau de la Seconde Guerre mondiale.
Vous continuez maintenant à travailler sur le sujet ?
Oui, on continue toujours, on présente des expositions justement dans notre lycée. Et je continue toujours de m'intéresser. Par exemple, il y a des plaques de mémoire au niveau du Valenciennois. On y jette toujours un petit coup d'œil.
Maintenant, vous avez ce rôle de passeur de mémoire. Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer à commémorer la mémoire des personnes déportées ?
Je pense qu'on va continuer à faire des expositions. Et surtout, si plus tard on a des enfants, petits-enfants, on continuera à leur faire passer cette mémoire.
Pour d'autres, ce sont des témoignages qui leur ont donné l'envie de s'engager dans l'étude de cette sombre période. Comme Jules De Jager, élève au lycée Maxence van der Merch à Roubaix.
Durant notre première année, on a étudié la vie de Lili Niel, donc Lili Rosenberg, à travers plusieurs archives, mais aussi des témoignages qu'elle a su nous montrer. Et ensuite, durant la deuxième année, on a continué en faisant une exposition et en allant du coup à Auschwitz-Birkenau. Et cela nous a permis de faire une exposition qu'on va présenter ici à la région, mais aussi à notre lycée.
Vous êtes allé en Pologne, vous pouvez me raconter un peu votre voyage et votre ressenti?
Alors au début on a visité Cracovie, donc il faisait très froid, on ressentait vraiment les vraies conditions, c'est pour ça que j'étais content d'y aller en hiver. Et ensuite on a du coup visité Auschwitz camp 1, donc c'était très spécial, c'était encore tout construit, c'était muséifié, donc on voyait beaucoup de choses mais on se ressentait pas vraiment. Par contre au niveau de Birkenau, à ce niveau là c'était vraiment spécial parce que on avait tout était démoli, il faisait froid, on mettait du temps et puis avec la fatigue tout ça, mais sinon c'était super. Et du coup on ne se rendait pas forcément compte de ce qui s'était passé directement, et c'est justement sur le retour que là on en s'est dit, ah il y a eu, c'est vrai que tout ce qui s'est passé, bah on s'en rendait compte.
Est-ce que vous imaginez rencontrer de telles choses à Auschwitz?
Je m'imaginais, je m'étais préparé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Par exemple, pour les cheveux, on m'avait prévenu qu'il y aurait des cheveux, mais quand j'ai vu vraiment le tas qu'il y avait, j'étais énormément surpris. Pareil pour tout ce qui est valises, chaussures. Et quand on se rend compte, et c'est pour ça justement après, que toutes ces chaussures représentaient une personne, c'est là où on se dit qu'il y avait vraiment, on parle vraiment de massacre et de génocide.
Alors quel sera votre rôle aujourd'hui ?
Nous, on va vraiment essayer d'être des passeurs de mémoire et du coup d'expliquer à tout le monde. Donc j'ai déjà présenté à ma classe, à mes parents j'en parle, à toute ma famille, parce que c'est un vrai sujet de discussion intéressant, et même des fois à mes amis pour vraiment débattre sur certains sujets et m'expliquer vraiment pourquoi il s'est passé ça et ce que nous on ressent.
Est-ce que vous avez changé après ça, après avoir vu Auschwitz?
Pas forcément, mais c'est vrai que, par exemple, on prend du recul sur Auschwitz-Birkenau, on sait ce qui s'est passé et on ne le sort pas aussi facilement qu'on pourrait le sortir avant. On comprend que les 1,5 million de personnes qui sont mortes là-bas, assassinées, étaient des personnes comme nous et vous. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à ressortir de tels noms.
Pour d'autres élèves encore, c'est le résultat d'une longue attente, d'une grande envie de devenir passeur de mémoire. C'est le cas de Mariem Bena Jayede, lycéenne à Madeleine Michelis à Amiens.
Alors pour ma part, je connaissais ce projet il y a déjà très longtemps, on en avait parlé quand j'étais déjà au collège, et je trouvais que c'était un projet qui était très intéressant, puisque non seulement on apprend beaucoup de choses, mais en plus ça nous permet de devenir passeur de mémoire et donc de transmettre cette mémoire qui est très importante.
Et qu'a-t-elle retenu du voyage en Pologne ?
Alors, ce qui a été le plus marquant, c'était le fait que non seulement auparavant, on avait appris beaucoup de choses, mais quand on est venu, c'est devenu très concret en fait. Tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait appris de par les témoignages et les œuvres, est devenu très concret quand on est venu sur le camp. On a vu que toute la haine qui avait été instaurée s'était concrétisée justement dans ces camps de la mort, et c'était d'autant plus horrible. Donc, c'est plutôt la globalité en fait, tout ce projet qu'on a établi qui est devenu très concret au moment où on y est arrivé.
Puisque vous êtes devenu passeur de mémoire, quel sera ce rôle? Comment vous allez le développer?
Alors non seulement au début on a commencé normalement à en parler avec notre entourage, avec la famille, et puis après on est passé dans les classes au sein de notre établissement pour transmettre tout ce qu'on a vu lors de ce voyage, et après on a l'intention de faire un court-métrage pour justement synthétiser tout notre projet.
Que vous sentez un intérêt?
C'est un peu divisé. Il y a des jeunes qui sont très intéressés, justement, bien que ce soit loin. Et il y en a d'autres qui, justement, sont un peu désintéressés, qui mettent une certaine distance, alors qu'en réalité, c'est pas si loin, puisque, de manière générale, l'antisémitisme persiste. Et c'est justement un devoir d'avoir connaissance de ce qui s'est passé avant pour pouvoir lutter par la suite contre la haine et l'antisémitisme.
Vous dites que c'est un devoir de mémoire et puis que l'antisémitisme existe encore. Vous sentez aujourd'hui que l'histoire pourrait se répéter ?
Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'histoire pourrait se répéter ? J'ose espérer que ce ne soit pas le cas. Mais si des gens ont acquéri une haine suffisante pour commettre de telles horreurs, si d'autres personnes ont été capables de faire ça, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui d'autres personnes ne soient pas capables de le faire à nouveau. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir connaissance de ce qui s'est passé avant pour pouvoir se dire qu'il y a un schéma qui semble être similaire, et donc aujourd'hui il faudrait avoir les connaissances pour reconnaître la montée de la haine, de l'antisémitisme, et éviter qu'éventuellement ça puisse se reproduire.
Et puis, il y a aussi des élèves ayant la volonté de réaliser un documentaire audiovisuel. C'est donc avec une caméra qu'Excel Curneau, du lycée Albert Châtelet de Saint-Paul-sur-Tarnoise, s'est rendu en Pologne, avec une idée bien en tête et une grande motivation.
Alors, tout d'abord, c'est le fait justement de porter la mémoire de la Shoah. Pour nous, c'est important pour transmettre tout ce qui s'est déroulé là-bas. Nous, notre rôle, en fait, c'était d'utiliser par le documentaire où c'est plus utile pour transmettre la mémoire.
Vous êtes allé en Pologne, vous pouvez me raconter un peu votre voyage ?
Alors, c'était les deux jours les plus intenses de ma vie. Franchement, pour moi, c'était intense émotionnellement et aussi au niveau du travail à apporter, parce que on était venus avec des caméras et des micros pour qu'on puisse faire les films, les plans et le son. Et suivre en même temps le groupe, c'était intense, mais c'était vraiment impressionnant aussi de voir toutes les entrées, toutes les expositions, c'était impressionnant.
Vous attendez une telle horreur ?
Alors oui, forcément, on se fait une petite idée, mais je pense pas qu'on peut s'y attendre vraiment à ce qu'on voit en fait là-bas. C'est quelque chose d'inimaginable. Une fois qu'on l'a vu, là, on s'en rend compte, mais avant, c'est pas possible. On peut pas se rendre compte.
Vous avez tourné un documentaire. Comment vous allez le diffuser ?
Alors là, déjà, on a été le projeter au sein de notre lycée et aussi à notre cinéma local au Régency à Saint-Paul-sur-Ternoise. Sinon, on souhaiterait aussi intervenir dans des festivals de courts-métrages. Et nous avons aussi comme idée de peut-être aller à l'international avec des sous-titres en anglais. Et après, on verra par la suite quelles projections nous allons faire avec ce documentaire.
L'après-midi de l'inauguration de cette exposition, les 200 lycéens des Hauts-de-France ont rencontré Lili Léniel Rosenberg, arrêtée avec sa famille le 27 octobre 1943 et déportée à Ravensbrück. Une rencontre ayant décuplé leur motivation d'être des passeurs de mémoire. C'était un reportage de Thierry Tempé pour Radio Plus.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus Lille, 106,6 MHz.
Un soleil et une mer, il y avait tout ce qu'il y a sur une plage en hiver. Le ciel était bleu, aussi bleu que ton petit frère, quand je l'avais attaché dans l'arbre l'année dernière. Il aurait dû comprendre dès ce moment-là, j'aurais fait n'importe quoi pour une heure avec toi. Notre amour est foutu. Moi c'est pas ça tu sais, c'est pas ça que j'ai voulu. Notre amour est foutu. Oh je comprends pas que tu m'en aies voulu. Y'avait tout ce qu'il y a sur une plage en hiver. Des ampoules, des papiers, des planches et des bouts de verre. La mer était loin, aussi loin que ton petit frère, sur son matelas de plage, en route pour l'Angleterre. Je l'avais un peu poussé, mais j'ai dit pour te plaire que je trouvais ça joli, ce petit point sur la mer. Notre amour est foutu. Moi c'est pas ça tu sais, c'est pas ça que j'ai voulu. Le matelas est foutu. Bon je pensais pas que tu l'aurais reconnu. À vous tout seul. C'est joli. Alors, pour t'oublier, j'ai fumé des mégots. J'ai eu mal au cœur en gardant les bateaux. Puis j'ai jeté des cailloux pour tuer les oiseaux, mais je les ai tous ratés. Moi, j'ai jamais eu de peau. Alors pour mieux pleurer,
je me suis assis seul face à l'océan dans une plaque de cambouis. Mon phasin est foutu. T'aurais canyonisé un mot qu'on cadisait. Mon phasa est foutu. Mazouté. Et je t'ai oublié.
System, you can see them come to patch up the holes now. And they're always pushing policies that work out right for ruling class goals now. And if panic comes to Wall Street, you can hear them stress the need for controls now. But they'll be gone, gone, gone when the people take their power away. We're working out of Washington, they're drawing up a federal plan. Then it's off to Santa Monica to spend some time consulting for Rand now. Where they tried to dream up ways to hide the rising cost of bombing Vietnam now. But they'll be gone, gone, gone when the people take their power away. They're just pulling the wool now. And they'll be gone, gone, gone when the workers take their power.